Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et bienvenue bien sûr à Agnès Bonfillon qui va tout vous dire sur l'actualité. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À commencer par la Chine qui revient sous les projecteurs, des quartiers de Pékin sont de nouveau confinés.
Après 2 mois sans aucun cas de coronavirus recensé, eh bien les autorités craignent un retour de l'épidémie. En tout cas, un nouveau foyer vient d'être détecté, Philippe Dova.
Oui Agnès, et comme à Wuhan, c'est sur un marché alimentaire, celui de viande et de poisson en gros de Xinfandi dans le quartier de Fengtai, que les nouveaux cas seraient apparus cette semaine. D'après les médias chinois, c'est un inspecteur des services sanitaires qui serait à l'origine de la contamination. Récemment rentré de Qingdao, au sud-est du pays, l'homme aurait effectué des prélèvements de viande sur le marché avant de ressentir quelques jours plus tard les premiers symptômes du virus, être hospitalisé et avoir transmis le virus entre-temps à l'un de ses collègues. Alors depuis, c'est la course contre la montre pour retrouver les personnes ayant fréquenté ce marché. Ce dernier a été complètement fermé ce matin pour désinfection et les autorités ont annoncé que 10 000 personnes subiraient des tests dans les prochaines heures. Dans les supermarchés de la capitale, le saumon a été retiré des étals après que des traces de Covid-19 aient été trouvées sur les planches à découper des poissonniers du marché. 11 quartiers résidentiels du sud de Pékin ont été placés à l'isolement et les écoles qui devaient réouvrir lundi resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.
Philippe Dova, le correspondant de RTL en Chine. Depuis hier, le Brésil, avec pratiquement 42 000 décès, est le deuxième pays le plus endeuillé par le coronavirus, juste derrière les États-Unis. Chez nous demain, allocution solennelle d'Emmanuel Macron à 20h. Le président de la République devrait annoncer l'accélération de la réouverture des restaurants. Revenir également sur la gestion de la crise. D'ores et déjà, on sait que le 1er juillet prochain, les frontières extérieures à la zone Schengen seront progressivement rouvertes. Et puis après 3 mois de fermeture, le trafic reprendra à l'aéroport d'Orly. Ce sera le 26 juin.
Le reste de l'actualité, c'est d'abord un juge mis en examen et forcément ça fait du bruit.
Ce magistrat de Dijon âgé de 55 ans, proposait, écoutez bien, le viol de sa fillette de 12 ans sur des sites internet. Il reconnaît avoir posté ces messages, mais il n'a jamais été question de passer à l'acte, dit-il. Cela n'empêche pas l'onde de choc, forcément, Samuel Goldschmidt.
C'est un membre d'un forum libertin qui repère une succession de messages étranges et choquants à partir d'octobre dernier. Un homme qui propose des relations avec son épouse et surtout sa fille âgée de 12 ans. Un signalement est fait au site qui avertit la police judiciaire. Les enquêteurs, en dialoguant avec l'internaute, remontent très rapidement à son adresse. Surprise, c'est un magistrat de 55 ans qui exerce à Dijon. Il est interpellé le 4 juin, perquisitionné en présence du procureur de la République de Besançon, Étienne Manteau.
Monsieur, durant sa garde à vue, a admis être l'auteur de la totalité des mails qui étaient envoyés. Il a été mis en examen d'une infraction assez peu utilisée, c'est-à-dire l'instigation à commettre un viol sur un mineur non suivi des faits.
À ce stade de l'enquête, ce juge réfute tout passage à l'acte et explique être dans le registre du fantasme. Son épouse et sa fille n'étaient au courant de rien.
Samuel Goldschmidt pour RTL, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, demandé la suspension temporaire du magistrat.
La technique de l'étranglement ne sera plus enseignée dans les écoles de police.
Vous savez, cette méthode d'interpellation qui consiste à maintenir un suspect à terre avec un genou sur la nuque ou le dos pour pouvoir le menotter. C'est comme ça qu'est mort George Floyd aux États-Unis il y a quelques semaines et en France, Adama Traoré. Lui, c'était en 2016. Depuis, sa sœur demande à ce que les responsables soient traduits en justice. Il y a 10 jours, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant le tribunal de Paris pour dénoncer les violences policières. Une foule qui a surpris tout le monde, y compris le comité. Aujourd'hui, nouvel appel à manifester dans la capitale à partir de 14h30. Et pour parer à d'éventuels débordements, Julien Fautra, le préfet de police a demandé la fermeture des commerces sur le parcours entre République et Opéra.
Oui, les commerçants sont fatalistes.
Ça a été comme ça tous les samedis pendant de nombreuses semaines. On fait avec. Il faut faire avec.
Ce vendeur de cigarettes électroniques, comme pour toutes les boutiques de la place de la République et des grands boulevards.
Sachant qu'on nous a fermé les deux dernières fois pour les manifs alors qu'il ne s'est rien passé. Donc on n'est pas très content.
Lors des manifestations pour les gilets jaunes, c'était tous les samedis 50% de baisse de chiffre d'affaires.
Trop habitué aux samedis agités. Ce restaurateur a même poussé le vice à prévoir une tactique. On reste ouvert, mais dès que ça chauffe, les serveurs sont formés pour rentrer toutes les terrasses en moins de 10 minutes.
On ferme pas. Puis là, en ce moment, on en a besoin, donc on va rester ouvert. On a l'habitude. Il y en a eu tellement avec les gilets jaunes, on a eu tellement d'habitude que on ferme plus. On le faisait pas avant, mais quand il y a eu les gilets jaunes qui ont commencé à essayer de prendre les tables, à les jeter sur les flics, on a dit bon, c'est quand ça part vraiment trop, on rentre tout le mobilier et c'est organisé. En cas de problème, tout rentre en 10 minutes.
Le communiqué de la préfecture publié hier est très clair, il faut que les commerçants installent des moyens de protection. On a été prévenu trop tard, regrette l'un d'eux, qui n'a pas pu monter des palissades en si peu de temps.
Le reportage de Julien Fautra pour RTL, Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Nantes. D'autres défilés contre les violences policières sont organisés un peu partout en France ce samedi. Hier, ce sont les policiers qui ont manifesté. Ils se sentent lâchés par leur ministre de tutelle, par Christophe Castaner, et demandent désormais à être reçus directement par Emmanuel Macron. Le chef de la place Beauvau, lui, a fait un rétropédalage hier soir. Il n'est plus question de sanctions en cas de soupçon de racisme. Il faudra pour cela attendre que les faits soient établis.
Vous restez bien avec nous dans un instant. La suite du journal. Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny aura bien lieu l'année prochaine. En 2013, un train avait déraillé, faisant 7 morts et plusieurs dizaines de blessés. On vous explique après ceci.
RTL Matin. Toyota.fr. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et bien sûr Agnès Bonfillon pour la suite du journal. Agnès, il y aura en 2021 un procès dans la catastrophe de Brétigny.
Oui, souvenez-vous, le 12 juillet 2013, un intercité Paris-Limoges avait déraillé. 7 personnes étaient mortes, des dizaines d'autres blessées. Après des années d'instruction, donc, la SNCF va devoir s'expliquer devant la justice. La SNCF, mais aussi en cheminot, Cindy Hubert.
Oui, il aura fallu plus de 7 ans pour entrevoir enfin un procès. Les juges d'instruction pointent du doigt les fautes commises par la SNCF. Des pièces d'aiguillage qui n'ont pas été renouvelées, une surveillance du réseau déficiente, des agents en nombre insuffisant sur le terrain et enfin, aucune limitation de vitesse sur les voies. Toutes les expertises demandées par la justice ont d'ailleurs conclu que le train avait déraillé à cause d'un morceau de voie mal entretenu qui s'est désagrégé au fil du temps. La SNCF FL continue de soutenir que l'assemblage a cédé brutalement à cause d'un défaut de l'acier et donc que l'accident était imprévisible. Certaines familles espéraient voir juger toute la chaîne de responsabilité, mais un seul homme sera finalement sur le banc des prévenus. Le cheminot qui a réalisé la toute dernière inspection des voies 8 jours avant la catastrophe. À l'époque, le jeune homme n'avait que 24 ans. On nous impose un bouc émissaire, souffle déjà certaines parties civiles.
Les précisions de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Le gouvernement demande à PSA de ne pas faire venir des salariés de Pologne. Le constructeur automobile a détaché certains de ses employés pour venir prêter main forte à leurs collègues du site d'Ornans dans le Nord. Une stratégie de groupe qui n'a rien d'illégal, mais les syndicats se disent très inquiets pour les intérimaires de la région.
On le disait il y a un instant, Emmanuel Macron devrait annoncer une accélération concernant la réouverture des restaurants.
Tous les établissements ont été touchés, qu'il s'agisse de bistrots de quartier ou de grandes tables. Le doyen des chefs français, Michel Guérard, rouvre son établissement ce week-end à Eugénie-les-Bains, dans les Landes. Depuis 1977, il a toujours réussi à conserver ses 3 étoiles. C'est un record. Cette crise sanitaire a certes été un coup dur, mais pas question de dramatiser, Denis Grangeau.
Oui, Michel Guérard semble avoir vécu sans crainte l'épisode du coronavirus.
J'ai vécu la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, j'étais en Normandie, mon pauvre. Vous imaginez bien, j'ai eu peur, j'ai eu faim. On a failli mourir plusieurs fois. Mon vécu m'a permis de passer au-dessus de ça sans appréhension, sans rien.
Pendant les 2 mois et demi de la fermeture de son établissement, le chef a imaginé encore et encore des nouveaux plats, jusqu'à se dire un beau matin...
Tiens, pourquoi pas le canard au sucre ? Je lève les filets, presque comme un steak au poivre. Je joue sur le poivre. Auparavant, j'ai enlevé la peau et la peau, là, je l'ai beaucoup travaillée avec des graines torréfiées, avec un peu de sucre.
À 87 ans, le maître Yoda de la galaxie des 3 étoiles continue de rêver comme un gamin.
Heureux.
Incontestablement, la force est en lui.
Moi, je continue de croquer à pleines dents dans ce mets délicieux, épicé qu'est l'optimisme.
Le reportage de Denis Grangeau pour RTL. La mort de Marcel Maréchal, le comédien et metteur en scène, est décédé à l'âge de 83 ans hier. Ancien directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. Il restera surtout dans la mémoire pour avoir fondé le fameux Théâtre de la Criée à Marseille.
Les sports, Agnès, quand le tennis fait son show, et bien forcément ça se passe sur la Côte d'Azur.
Ça commence aujourd'hui, l'Ultimate Tennis Showdown se déroule au centre de Sofia Antipolis, entre Cannes et Nice, l'UTS, où l'art de dynamiser la petite balle jaune, Isabelle Langer. arriver. C'est Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, qui est à l'origine de l'UTS. Son but, dépoussiérer le tennis, dont les fans ont en moyenne 61 ans. Pour l'entraîneur de Serena Williams, il est grand temps de rajeunir ce public.
Il faut que les champions soient identifiables, qu'ils amènent de l'émotion, il faut qu'ils partagent de l'émotion sur le terrain avec les spectateurs ou les téléspectateurs. Et puis, il faut que ça bouge, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit dynamique. Moi, j'ai envie que le téléspectateur, il saute de son canapé toutes les 20 secondes parce qu'il va se passer quelque chose qui va lui provoquer une émotion.
Les matchs dureront moins d'une heure et seront décomposés en 4 quarts-temps de 10 minutes. Les coachs munis d'un micro pourront buzzer pour donner des conseils tactiques à leurs poulains et les joueurs disposeront de 4 cartes qu'il faudra utiliser au bon moment pour mettre l'adversaire en difficulté en lui enlevant par exemple un second service. Enfin, pour plus d'interactivité, les internautes pourront interviewer les joueurs pendant les pauses. Pour Lucas Pouille, cela va donner une certaine liberté qui va faire du bien.
Quand on casse une raquette, le public veut ça. Il veut qu'il se passe des choses sur le court. Donc il y a un moment, il faut arrêter de nous mettre une amende. Moi, à Wimbledon, j'avais dit bullshit et j'avais pris 3000 pounds d'amende. Il ne faut pas exagérer non plus, on est des êtres humains et je pense que les gens s'identifieront plus à nous, plus facilement, si on arrête d'être un peu des robots, si on est nous-mêmes.
Et pour suivre les matchs, un seul moyen, s'abonner à utslive.fr.
Ça va casser de la raquette, hein, si l'on en croit Lucas Pouille. Merci Isabelle Longer pour ses explications. Foot retour gagnant pour la Juventus de Turin. L'équipe se qualifie pour la Coupe d'Italie après sa rencontre face au Milan AC. Aucun but n'a été marqué pendant ce match retour. Et ce soir, c'est l'Espagne qui reprend le chemin des terrains. Le Barça se déplace à Majorque. Les voisins qui rejouent après la crise sanitaire. Il en sera forcément question ce soir avec l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Rudy Garcia. Il sera l'invité de Denis Balbir dans On refait le match sur RTL, évidemment, entre 18h30 et 20h.
Prometteur rendez-vous ce soir. Merci Agnès Laval. Les courses aujourd'hui, Quintet Plus. Il y a 16 partants en pronostic.